Bonjour, Marco, compte à rebours. Chaque fois, le chant de ce générique, cette voix me ravit, et puis j'ai du mal du coup à continuer cette émission. Une émission de contes, d'histoires. Pourquoi conter? Pourquoi raconter des histoires? C'est vrai, c'est quelque chose qu'on pourrait dire maintenant, on a autre chose à faire, après tout, pourquoi continuer ces vieilleries? Et puis aussi, on peut se rappeler, à l'heure où certains parlent de civilisation supérieure, se rappeler d'où viennent les histoires. Sotigui Kouyaté, qui était un griot, raconta cette chose-là, parce que c'est un homme qui est mort maintenant, il a vécu les temps difficiles de la colonisation. Il rappelait ce que disaient les colons français aux habitants de Haute-Volta. Il leur disait de se méfier des griots. Il y a chez vous des gens qui fabriquent des chaussures, d'autres des vêtements, d'autres qui chassent, qui pêchent. Tout cela sont utiles, mais les griots, eux, ne servent à rien. Ils vous racontent des histoires qui ne sont que des mensonges. Il faut vous débarrasser d'eux. Oui, et je voulais, alors voilà, c'est ce qu'on peut appeler les aspects positifs de la colonisation. Je voulais citer dans la foulée un extrait d'un petit texte de Nicolas Roméas de la revue Cassandre hors champ qui dit « Pour nous, qui passons le plus clair de notre temps à contrer les assauts de plus en plus inquiétants du monde du chiffre et de la quantité envers celui du symbole, il est utile de rappeler que compter à la même origine latine que compté. Alors là, c'est vrai que quand c'est écrit, on comprend mieux en parlant. Il faut faire des efforts. Computare, c'est la même origine. Ce rappel incongru, dit-il, est plutôt paradoxal, nous met en face d'une réalité fondamentale. À l'origine de notre civilisation, ces deux actions n'en faisaient qu'une, et le mot pour les désigner était le même. On pourrait métaphoriquement le dire ainsi, que l'on le fasse avec des chiffres, le décompte des éléments qui constituent le monde, ou qu'on égrène l'une après l'autre les histoires qui le racontent, ce ne sont au fond que deux façons de faire la même chose, l'inventaire du monde, à l'aide d'un boulier ou en s'aidant d'un chapelet, avec des chiffres ou avec des symboles. Mais il est clair, dit-il, que pour nos contemporains, compter, et compte bien plus que compter. Pourquoi et comment les frontières entre ces deux approches se sont-elles élevées au profit de la méthode comptable? Notre dérive matérialiste, scientiste et, pourrait-on dire aujourd'hui, technologiste ne date pas de si longtemps. Elle est liée à la volonté de l'Occident de dominer le reste du monde. Cette volonté de pouvoir s'est appuyée sur la notion de progrès, qui permit de nous distinguer des sociétés dites primitives, dont on a pu ainsi trop facilement mépriser les cultures imprégnées de spiritualité, en achevant de débarrasser notre propre culture, en dehors des monothéismes institutionnels, de toute trace de la dite spiritualité. Et nous voilà pris au piège d'une société où la parole que l'on entend est celle des économistes et plus du tout celle des poètes. Voilà ce que disait Nicolas Roméas. Et les poètes et les histoires, pourtant, nous aident à ne pas sombrer, je crois, dans la seule vraie folie, qui est celle qui consiste à se prendre au sérieux. Voici aujourd'hui quelques histoires sérieusement athées. Le culte du moi, si répandu, commence très souvent par la dénigration de soi-même. Ainsi le montre cette histoire juive contemporaine qu'on raconte aujourd'hui en Israël. Trois rabbins sont assis à l'arrière d'un taxi. Le premier soupire et dit « Quand je pense à Dieu, je me dis que je suis vraiment très peu de choses. Le second rabbin dit alors au premier, oh, si toi, tu es très peu de choses, alors qu'est-ce que je suis? Je ne suis rien. Le troisième rabbin dit au second, si toi, tu n'es rien, alors qu'est-ce que je suis? Je suis moins que rien. Je suis au-dessous de tout. Le chauffeur de taxi, qui est noir, se retourne à ce moment-là et leur dit, mais si vous parlez de cette manière, si vous dites que vous n'êtes rien, que vous êtes même moins que rien, alors qu'est-ce que je suis moi? Il n'y a même pas de mots pour me l'écrire. Je n'existe pas. Les trois rabbins le regardent et disent alors, mais pour qui il se prend celui-là? Une histoire indienne montre un homme, disciple d'un maître célèbre, qui ramasse du bois dans une forêt consciencieusement. Il entend un bruit au loin, et c'est bizarre, ce bruit semble se rapprocher. Se souvenant alors de son gourou, il s'efforce de garder sa sérénité. Le bruit se rapproche pourtant, et soudain, il entend un grand fracas et voit accourir un éléphant déchaîné qu'un cornac s'efforce vainement de maîtriser. « Sauve-toi !» lui crie le cornac. « Garde-toi, l'éléphant est devenu fou !» Le disciple, à qui l'on avait appris que la divinité, en l'occurrence le dieu Vishnu, se trouve en toute chose, laissa l'éléphant se précipiter vers lui et ne bougea pas. « Mais écarte-toi! Sauve-toi! Je ne peux pas contrôler l'éléphant !» Au lieu de s'écarter, l'homme se prosterna devant l'éléphant furieux. Alors celui-ci le saisit avec sa trompe et le projeta violemment contre un arbre. L'homme tomba sur le sol, brisé, ensanglanté. On le transporta dans un hôpital. Son gourou vint le voir et lui dit « Mais pourquoi ne t'es-tu pas écarté ?»« Maître, je me suis rappelé votre parole, que Vishnu est en toute chose. Alors je me suis incliné pour saluer le dieu qui était évidemment dans l'éléphant. »« Malheureux !» lui dit le gourou. « Mais pourquoi n'as-tu pas écouté le cornac ?» Vishnu était aussi dans sa voix. Une histoire de barbe, une histoire persane. Elle a été racontée entre autres par Fariduddin Attar. Des oiseaux qui traversaient à tire-d'aile un grand désert aperçurent un homme solitaire assis devant l'entrée d'une grotte et se posèrent un moment auprès de lui. Et un des oiseaux, qui connaissait le solitaire, lui dit, après l'avoir salué, « Tu es toujours là ?»« Toujours, » répondit l'homme qui peignait lentement sa longue barbe avec un morceau de bois taillé. « Et dis-moi, as-tu trouvé la réponse ?»«
La réponse à quoi ?»«
À la question que tu te posais. »«
Non, » dit l'homme, « je n'ai pas trouvé la réponse. »«
Mais quelle est cette question ?» demanda un autre oiseau. L'homme eut un geste de lassitude, comme s'il ne désirait pas partager un secret qu'on devinait profond. Mais les oiseaux, ravis d'entendre un beau conte d'ermite, pendant leur halte, insistèrent si vivement que l'homme, que dévorait sans doute le besoin de parler de lui, leur dit « Je vais vous raconter. Je vivais près du centre d'une ville, et je me conduisais, je pense, comme un homme honnête. J'avais une femme et quelques enfants. Puis, sans que je puisse fixer un point précis à la naissance de ce désir, je me sentis tourmenté par une violente envie d'aubergine. Oui, l'envie de manger des aubergines ne me quittait ni le jour ni la nuit. En même temps, je me disais, quelque chose me disait que si je mangeais des aubergines, un malheur allait me frapper. Un grand, un terrible malheur. Alors j'essayais de penser à autre chose, à mon travail, à ma famille, à des oranges, à des moutons. Mais toujours, toujours, l'aubergine revenait. De plus en plus forte, l'aubergine. Les oiseaux écoutaient l'ermite avec attention, laissant le vent chaud du désert agiter leurs ailes. L'homme parlait tout en se peignant la barbe. Finalement, comme vous pensez, sinon il n'y aurait pas de conte, mon désir me submergea. Ma mère trouva des aubergines, elle les fit cuire à la façon qu'elle pensait que je les aimerais et me les servit chaudes et odorantes. Je commençai à les manger sous l'œil de ma mère. Mais à peine avais-je mangé la moitié d'une aubergine qu'on frappa à la porte. Un homme entra et il posa devant moi la tête de mon fils. On venait de couper la tête de mon fils. L'homme se tut un long moment. Les oiseaux respectèrent sa douleur qui semblait le dominer tout entier. Il gardait la tête penchée vers le sol aride. Seule sa main allait et venait dans sa barbe. Alors, dit-il, j'ai décidé que je passerai le reste de ma vie à chercher le rapport qui existe entre le fait de manger des aubergines et la tête coupée de mon fils. J'ai tout abandonné, absolument tout. Je suis venu ici et depuis ce jour, je cherche la réponse à cette question. Et tu n'as rien trouvé ? Demanda un autre oiseau.
Rien.
Et comment vis-tu dans le désert ?
Je mange des brins d'herbe, de la terre, des morceaux d'écorce que m'apporte le vent. Je trouve de l'eau en pressant de l'argile dans le fond de ma grotte. Et je réfléchis, comme vous voyez.
Soudain, après un court silence, un jeune oiseau se mit à rire, franchement. «
Pourquoi ris-tu ? » lui demanda le solitaire surpris.
« Je ris parce que je sais pourquoi. »«
Pourquoi quoi ?
Pourquoi tu n'as pas trouvé la réponse ? » ?»«
Et pourquoi je n'ai pas trouvé la réponse ? » ?»«
Parce que tu ne penses pas à ta question. »«
Moi ? » dit l'homme indigné. « Mais je ne pense qu'à ça. »
« Erreur !» lui répondit le jeune oiseau, criait toujours. « Tu ne penses qu'à ta barbe !» Ce qui suivit étonna les oiseaux. L'homme regarda sa main avec une certaine gravité et sa main, soudain, cessa de peigner sa barbe. Il ne resta silencieux qu'un très court instant. La remarque du jeune oiseau était si juste qu'elle s'imposa au solitaire avec la force d'une illumination totale. sans la moindre agitation, pénétré soudainement d'une vérité nouvelle qui lui apparaissait avec tous les détails jusqu'alors dispersés, brusquement cohérent, il dit d'une voix calme « Tu as raison. Je vois que tu as raison, jeune oiseau. Tu as totalement raison. Écoutez-moi. Un jour, j'étais ici depuis quelques mois, un an peut-être, quand tout à coup par terre j'ai vu quelque chose qui brillait. Une pierre qui brillait. Je l'ai ramassée. Tenez, la voici. C'est du mica. » Les oiseaux se passèrent le mica de bec en bec, tandis que l'homme continuait. En me regardant dans ce bout de mica, je vis que j'avais une barbe déjà longue, une barbe que je trouvais magnifique. Alors vite, je ramassai un morceau de bois, je le taillai pour en faire un peigne et je me mis à soigner ma barbe, à démêler, à peigner, à lisser, à entretenir ma barbe. Il se laissait emporter par le mouvement de ses paroles et il s'énervait. La plus dure des colères, qui est la colère contre soi-même, l'emportait. « Et vous avez raison !» criait-il. « Je ne pensais plus qu'à ma barbe. Avant, je ne pensais qu'à l'aubergine. Et retiré dans le désert, je ne pensais plus qu'à ma barbe. Toute ma vie était consacrée à ma barbe. » Il se dressa, pris de fureur. Il saisit sa barbe à deux mains. Il hurlait aux échos du désert. « Mais c'est fini! Vous allez voir! Je vais l'arracher, cette sale barbe, cette barbe maudite. Je l'arrache, je la disperse, je la jette. » Il faisait comme il disait, il s'arrachait les poils par poignées et le sang jaillissait de sa peau déchirée, laissant le sol ocre. Le vent l'emporte, bientôt je n'aurai plus de barbe, plus du tout, plus un poil de barbe. L'homme s'arrachait les derniers poils de barbe en criant de rage. Soudain, il s'arrêta, car il venait de reconnaître le rire du jeune oiseau. Il tourna vers cet insolent, son visage sanglant, misérable, et lui demanda « Pourquoi ris-tu encore ?» Le jeune oiseau répondit en se frottant les ailes, car il s'apprêtait au départ comme les autres « Pourquoi je ris ? Parce que maintenant, encore, tu ne penses qu'à ta barbe !» Et tous les oiseaux, en riant, s'envolèrent. Alors, comment vous les avez trouvés, tous ces personnages? Ils étaient tous pitoyables, n'est-ce pas? Eh bien, que celui qui ne s'est jamais pris au sérieux leur jette la première pierre. Seul Nasreddin, peut-être. Allez, tiens. Nasreddin, alors qu'il se plaignait sempiternellement de sa pauvreté, donna chez lui un soir un tel festin que l'écho de sa magnificence parvint aux oreilles du calife en personne. Celui-ci le fit convoquer et lui demanda d'où il tenait l'argent pour donner une fête pareille. « Je fais des paris, » répondit Nasreddin, « et je gagne. »« Mais tu paries quoi ? N'importe quoi. »« Serais-tu prêt à parier avec moi ? Sur le champ, » répondit Nasreddin. « 10 pièces d'or, 10 pièces d'or. Et que paries-tu ? » « Je parie, » dit Nasreddin, « que demain matin, à ton lever, tu auras un gros bouton sur la fesse droite. » Pari tenu. Le lendemain matin, après une nuit d'agacement, le calife se réveilla et constata qu'il n'avait rien sur la fesse droite, ni d'ailleurs sur la gauche. Il fit appeler Nasreddin et lui annonça qu'il avait perdu son pari. Nasreddin, logiquement, demanda à vérifier, ce qui fut fait.
Le calife baissa rapidement son pantalon et montra ses fesses à Nasreddin qui dut reconnaître qu'il avait perdu et se retira modestement. Le soir même, le calife apprit que Nasreddin donnait une fête plus somptueuse encore que la première. Il le convoqua et lui demanda, assez mécontent, les raisons de cette surprenante réjouissance. « Oh, c'est très simple, » lui répondit Nasreddin. « J'avais parié 50 pièces d'or avec ton vizir et j'ai gagné. Et qu'avais-tu parié ?»« J'avais parié que ce matin, s'il venait assez tôt et se cachait derrière une tenture, il verrait le calife me montrant son cul. » Voilà, Nasreddin, les histoires sont finies pour aujourd'hui, mais il y aura une suite, puisque depuis déjà quelques années, c'est tous les mercredis à 12h35, quelque chose comme ça. Et puis c'est rediffusé le dimanche aussi, à 18h. À la semaine prochaine, c'était Marco.